Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jeudi Daniel Kachama.
Okapi.
C'est la deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Merci à vous tous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Et merci à vous tous qui nous écoutez sur www.radiookapi.net. Comment favoriser le développement d'une agriculture durable en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui avec le professeur Peter Kasongo Batoussé, conseiller principal du Collège Agriculture, Pêche et Élevage à la présidence de la République. Professeur Peter, bonjour.
Bonjour Jody.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien.
Merci à vous.
Des questions et préoccupations, le sujet vous intéresse, le standard est déjà ouvert, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Bénite Lomeka assure la réalisation de cette émission. Pierre Diassino à la mise en onde au micro. C'est Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Okapi.
Bien, la République démocratique du Congo possède un potentiel potentiel agricole de 80 millions de terres arables selon les experts. Cependant, ces terres cultivables ne sont pas suffisamment valorisées. Conséquence, nous importons la plupart des produits alimentaires qui sont sur le marché, le riz, la farine, le poisson, tomates, ainsi que d'autres biens de consommation. Actuellement d'ailleurs, on assiste à une flambée des prix de la farine de maïs dans les espaces du Grand Kassai et Grand Katanga à cause d'une faible production interne. Et pourtant, la RDC peut assurer l'autosuffisance alimentaire des Congolais ainsi que des pays étrangers. Alors comment favoriser le développement d'une agriculture durable? Quelle est la vision du chef de l'État par rapport au développement de l'agriculture dans notre pays? Professeur Peter Kasongo, conseiller principal du chef de l'État dans le domaine de l'agriculture, pêche et élevage, est notre invité aujourd'hui. Professeur, ravi de vous retrouver encore une fois dans cette émission. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour... quelle est la vision d'abord du chef de l'État par rapport au développement de l'agriculture dans notre pays?
Encore une fois, je vous dis merci parce que ce n'est pas la première fois que je me retrouve dans votre studio pour parler des questions d'actualité qui concernent notre nation. Vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour promouvoir une agriculture durable. Quelle est la vision du chef de l'État? D'emblée, je veux vous rappeler que vous le savez d'ailleurs très bien que le chef de l'État a décrété ce qu'il appelle la revanche du sol sur le sous-sol.
Sur le sous-sol.
Donc c'est parce que vous le savez très bien que depuis des années, notre pays, notre économie dépend essentiellement de la production et l'exploitation des ressources minières à plus de 90%. Donc une économie très vulnérable, très fragile. Alors que nous avons 70% de la population vivant essentiellement dans les milieux ruraux, c'est-à-dire qu'il y a comme principale activité l'agriculture. Donc si vous voulez bien promouvoir le développement, lutter contre la pauvreté, donc il faut absolument des actions concrètes, des mesures volontaristes pour promouvoir les activités rurales. Et donc le chef de l'État veut effectivement matérialiser cette vision, son credo de revanche du sol sur le sous-sol, en mettant l'accent sur des problèmes spécifiques des milliers d'euros. Je vous ai entendu tout à l'heure dire que nous sommes en train de faire face à une sécurité alimentaire sévère du fait de la faible production. Mais je m'en veux vous dire que le problème n'est pas seulement celui de la faible production, parce que la production, il y en a. Il y a des milieux où on produit et on ne sait pas évacuer vers le centre de consommation. Et donc, la production, il faut l'encadrer. Et là où elle est là, elle est disponible, il faut la faire parvenir, il faut l'évacuer de là vers le centre de consommation. Ça fait partie en fait du défi auquel nous sommes appelés à faire face. Mmh. Et le président de la République a déjà lancé, donné une réponse à ce défi. C'est à travers le programme des 145 territoires. Parce que aujourd'hui, vous le savez très bien, c'est tout le monde qui veut vivre en ville. Mais pourquoi on veut vivre en ville? Parce qu'on estime que là, les conditions de vie sont plus ou moins bonnes. On sait manger, on sait travailler, on a petit dossier, on a des opportunités d'emploi et tout ça. Alors que l'essentiel du potentiel de développement dans notre pays se retrouve effectivement dans les milieux ruraux où nous avons la main d'œuvre, nous avons les terres arables, les conditions climatiques tout à fait favorables pour pouvoir non seulement cultiver, mais également développer d'autres activités connexes sur base de ce que nous avons comme possibilité de production diversifiée dans le secteur agricole.
Et comment bien organiser cette revanche de l'agriculture sur du sol, sur le sous-sol?
Voilà ce que je dis. Il faut commencer d'abord par s'attaquer au véritable goulot d'étranglement. Qu'est-ce qui fait que depuis tout ce temps, des années, ça ne marche pas? Et vous le savez très bien, ça fait depuis plus de 60 ans d'ailleurs, bien avant notre accession à l'indépendance, la RDC, le Congo était parmi les principaux pays producteurs et même exportateurs de certaines cultures, certains produits agricoles. Et puis d'année en année, on a constaté une baisse progressive et même, je dirais même, soutenue. Faute de volonté, faute de politique concrète pour juguler la tendance baissière et pour relancer la production. Et donc, de cela, il faut comprendre que plusieurs facteurs jouent. D'abord, c'est les acteurs. Les principaux acteurs, ce sont les paysans et l'État, dans les institutions. Les paysans, ils sont là, ils ont besoin d'accompagner. Ils ont besoin d'un cadre incitatif. Alors, ça ne sert à rien de produire. Vous voulez produire, mais vous ne savez pas tirer profit de votre production. Vous produisez, vous avez des grandes quantités de maïs, de manioc, ainsi de suite, qui se trouvent chez vous, entreposés dans de très mauvaises conditions et qui pourrissent, qui moisissent parce que vous ne savez pas les évacuer. Et donc ça, c'est vraiment désincitatif pour les populations rurales. Alors, le problème, c'est quoi? L'absence de route de desserte agricole. Alors, il n'y a pas que ça. Il y en a qui ont peut-être la possibilité d'évacuer, mais qui ont de très faibles capacités de production, où le niveau de rendement sont très faibles, faute d'intrants. Et les intrants, c'est quoi? C'est les semences les améliorées, à haut rendement. Les intrants, c'est quoi? C'est aussi les matériels, les outils de production. Aujourd'hui, ils sont essentiellement rudimentaires, c'est là-haut.
Alors qu'on devait avoir une agriculture mécanisée.
Bien sûr, les intrants, c'est quoi? Les intrants, c'est des engrais chimiques et des pesticides qu'on peut utiliser pour atteindre certains niveaux de productivité comparables. Parce qu'aujourd'hui, on veut la compétitivité, mais la compétitivité voudrait qu'on puisse produire mieux, aux meilleures conditions que ceux avec lesquels on est en concurrence. Ce sont peut-être des économies voisines ou les économies lointaines qui, aujourd'hui, inondent le marché des denrées, des produits agricoles. Donc, ce qui est d'ailleurs, ce qui fait, tout le monde se dit, c'est un scandale, c'est une honte. Et c'est vrai, nous avons le droit, nous avons l'obligation de le regretter. Et donc, il faut apporter des réponses à ces préoccupations. Les intrants, c'est aussi quoi? C'est des capitaux. On a besoin d'argent. Lorsque l'État ne s'est pas subventionné, il faudrait quand même que le marché, par ses propres réalités, arrive à mettre à disposition ou rendre plus accessible les sources de financement pour les paysans ou les structures paysannes ou les organisations qui peuvent effectivement avoir accès à ces ressources et financer les investissements nécessaires pour
accroître leur productivité. Et le budget alloué à l'agriculture aujourd'hui est toujours faible.
On a toujours déploré ça. Le budget est faible. Mais je dois vous dire qu'il faut magnifier la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que, au-delà, à part le programme des 145 territoires, qui a une composante importante pour les préoccupations rurales, c'est-à-dire les routes de desserte agricole, et vous le savez, ce programme prévoit de construire, de réhabiliter à peu près 9000 km de routes de desserte agricole et d'entretenir 31 000 km à peu près de ces routes de desserte agricole. C'est énorme, c'est vraiment volontariste. Et donc, au-delà du budget prévu pour cela, l'État, dans les prévisions budgétaires 2023, a accru de près de 60% le crédit pour le secteur agricole. Donc, ce qui n'a jamais été connu, parce que des années, le budget n'avait jamais dépassé 3% pour la fraction allouée au secteur agricole. Et ça, c'était d'abord des prévisions. C'était d'abord des prévisions.
Oui.
On vous prévoit moins de 3%. Et au niveau d'exécution, on avait déjà dépassé 2%. Donc, vous voyez déjà, aujourd'hui, le plus grand défi que nous avons, au-delà de la volonté qui est exprimée, d'accroître le budget pour appuyer le secteur agricole, il faut alors se mobiliser pour que le taux d'exécution de ce budget soit le plus élevé possible. Et vous verrez les résultats. Donc, le 145 territoires, ça prévoit. Je vous ai parlé que de routes de desserte agricole, mais il y a aussi une composante importante rien que pour les activités agricoles. Il faut doter les paysans des équipements, des intrants dans leur diversité, comme je vous en ai cité quelques-uns ici.
D'accord.
Et également, il faudrait les structurer, les organiser pour que ensemble ils soient en mesure d'être mieux encadrés et améliorer leur niveau de productivité.
Bien, comment développer une agriculture durable? Une agriculture durable en République démocratique du Congo, nous avons déjà quelques auditeurs en ligne qui veulent poser leurs questions. Vous voulez également participer, le standard est ouvert, composez les 081-890-63-94.
Okapi.
Bien, Guiston, vous êtes dans la province du Haut-Katanga, bonjour. Guiston, bonjour.
La parole.
Allô? Roger Marcel de Kinshasa, bonjour.
Je vais donner la parole.
Oui, c'est Guiston.
Oui, effectivement, Guiston Banza depuis le territoire de Kambove.
D'accord, quelle est votre question?
Voilà, d'abord, ma première préoccupation, je voudrais démontrer ici que c'est l'État qui est le premier responsable qui bloque le développement du secteur agricole. Je voudrais dire ici, vous allez voir que le Congolais aime trop les discours. Il y a combien de fois on a lancé les villages agricoles ici chez nous, dans les territoires agricoles. On aime dire, voilà, village agricole, on a lancé, on a donné les intrants. Mais les résultats restent toujours les mêmes. Laissez-moi vous dire que dans notre territoire de Kambove, c'était auparavant une zone agricole, mais présentement, je vous dis que le nombre d'agriculteurs a baissé sensiblement avec l'afflux des entreprises minières. Les entreprises chinoises arrivent ici et sont en train de solliciter les champs qui se retrouvent aux environs de la population ou du territoire de Kambove. En sollicitant ces champs-là, vous allez vous rendre compte que c'est l'État qui les accompagne. L'État accompagne ces miniers en disant aux cultivateurs, si vous refusez qu'on vous achète votre champ à $200, sachez que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. L'État va prendre les forces. Et le pauvre agriculteur va céder son champ à $100, $200. Et finalement, il va se retrouver dans la difficulté d'aller trouver un terrain plus loin, là où il doit cultiver. Avec l'insécurité qui sévit le territoire de Kambove, on ne sait plus aller plus loin. Il n'y a pas plus loin qu'au mois de mars ici. On a tué une maman à Kambove, on a coupé toutes les parties du corps. C'était déplorable. Avec ça, nous allons demander à l'État congolais de trouver une autre politique.
Merci Guiston. D'accord. Merci beaucoup. On va donner la parole à Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody. Bonjour à notre invité et bonjour à tous les éditeurs de la radio passée.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au développement du secteur agricole?
Merci beaucoup pour les thématiques du jour passé. C'est quelque chose vraiment qui frappe vraiment notre pays ces derniers temps. Merci encore d'avoir invité un peu l'invité qui est vraiment bien placé à ce secteur, qui est conseiller du chef de l'État en matière de l'agriculture et pêche et élevage. Moi, je l'appelle l'œil du chef de l'État à ces matières-là. Vous constatez dans notre pays, on a vraiment un grand problème. Ce n'est pas qu'on manque, mais on manque un peu de terres à cultiver. On a des terres. Le chef de l'État, même du début de son mandat, disait toujours le peuple d'abord. Il a même employé, il a dit même des mots, la revanche des sous-sols, on a déjà écouté un peu ces discours-là. Parce que vous savez, hier, quand on élit un chef de l'État vient avec un programme qui est vraiment basé sur dans 5 ans. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous entamons vraiment l'année électorale. Le secteur de la critique, ça pose vraiment un grand problème. Vous avez vu même dernièrement ici, le Premier ministre avait envoyé même le 9 ministre en Zambie et en Afrique du Sud. Moi, je me demande un pays comme le nôtre, quand on manque un peu le maïs, et puis aller dans des pays voisins pour avoir ça, c'est vraiment un grand problème. Je vois vraiment que notre État congolais manque vraiment un problème.
Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité Roger Marcel?
Ouais, ma question est la suivante. Parce que on a dit, ce qui pose vraiment un grand problème, moi je pourrais dire ceci, parce que on a vraiment dans des provinces où ça pose un grand problème d'avoir un peu de par rapport aux routes qui posent vraiment un grand défi. Aujourd'hui, vous pouvez avoir même vos produits pour avoir un peu le temps d'évacuer un peu avec l'état de nos routes, ça pose vraiment un grand problème. Si quand même avec le programme des 145 territoires là, si notre État pouvait vraiment se baser vraiment beaucoup, avec beaucoup d'intelligence à ce secteur-là, je pense quand même que ça pouvait quand même élargir un peu, diminuer un peu ça.
D'accord, alors, merci.
Je pose encore une deuxième question.
Rapidement.
On avait vraiment un programme de Kanyemoka CZ, mais je ne vois plus un peu ce secteur-là, ça n'évolue pas encore, ou bien on a cessé, ou bien quoi. C'est ça aussi la deuxième question.
Merci. Charles Akissimba de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question, Charles?
C'est les journalistes. J'ai toute une Bible de pistes. Mais.
Vous avez quoi?
Toute une Bible de pistes.
Des pistes et des solutions.
Oui, mais je vais me focaliser à 4 tout simplement.
Oui.
Favoriser l'agriculture durable en RDC, c'est d'abord rendre la théorie à la pratique. Quittons dans les slogans. L'agriculture, priorité des priorités. Revanche du sol et sigle sous le sol, ce ne sont que des simples poèmes. Mais la concrétisation nous fait défaut. Mais c'est jeudi, c'est une grâce d'avoir un pays où il pleut toute l'année. Avoir une agriculture diversifiée à l'est, avec les haricots par exemple, les pommes d'été, au centre-sud, surtout les maïs et consorts. Mais c'est jeudi, nous avons 500 députés nationaux. Si les chefs de l'État obligeaient et imposaient à chacun de cultiver au moins 500 hectares, vu leur salaire, chaque sénateur, chaque gouverneur, chaque ministre, pas pour vendre aux sociétés brassicoles, mais pour les gains de la population. Le premier intervenant a dit les problèmes des villages agricoles. Oui. Les villages agricoles sont là, mais malheureusement, on est en train de vendre la moisson aux sociétés brassicoles en abandonnant les paisibles citoyens. Et pour terminer, M. Jody, inviter la population urbaine, il pense que c'est l'apanage des villageois. En tout cas, on est distrait. On est dans les réseaux sociaux. On est dans des prédications prolongées. On est dans des prophéties routières, mais malheureusement, en oubliant ce qui nous fait exister sur cette terre.
D'accord. Vous voulez dire que même dans les centres-villes, on peut faire l'agriculture. C'est pas seulement réservé aux paysans, les gens qui sont au niveau du village.
Parce que même dans les villages, il y a aussi l'espace à cultiver.
Bien, alors, merci. Merci beaucoup. Merci, Charles. Madame Claudia, vous êtes à Colisi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, merci pour le thème du jour. En fait, je pense que c'est ce genre de thématique devait vraiment faire la une, surtout nos médias. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Et la vie de la population en dépend. Depuis qu'on a organisé les états généraux sur l'agriculture, il y a bientôt 3 ans, je pense que rien n'est fait. Jusque-là, rien n'est fait pour booster le secteur agricole. 20 ans après la ratification de la déclaration de Maputo, notre pays n'a jamais dépassé 3,5%. Et aujourd'hui, on ne sait même pas à quel chiffre nous sommes. C'est vraiment inquiétant. Parce que quand nous voyons les chiffres des personnes qui sont... Nous avons plus ou moins 9,1 millions de personnes qui sont en crise, en situation de crise alimentaire, et 3,3 millions de personnes qui sont en situation d'urgence. Si nous n'arrivons pas à développer l'agriculture, pendant que nous sommes en train de jouir des meilleures conditions climatiques, comment pourrions-nous nous adapter au bouleversement climatique, vu les dérèglements dans la pluviométrie? Et il y a aussi, bien sûr, l'avancée du désert de Kalahari. Parce que le calendrier agricole doit chaque fois être révisé. Je pense que c'est le moment d'organiser des conférences, des séminaires, des renforcements de capacités ou des campagnes de sensibilisation. Parce que c'est une question de vie ou de mort.
Et notre préoccupation,
oui, ça concerne un peu le riz que nous produisons dans notre pays. Nous avons un riz de très bonne qualité à Bunkeya, à Dilolo et à Luena. Mais par manque des moissonneuses batteuses et des machines, ce riz n'est pas bien traité. Il est sablonneux et la population l'évite. On préfère consommer le riz qui vient de la Tanzanie et de la Thaïlande et d'autres pays. Mais toutefois, parmi les riz qui sortent de l'extérieur, ce n'est même pas contrôlé par l'OCC. Il y a des riz qui ont déjà fait plus de 10 ans dans des greniers. Et quand on l'amène dans les pays, ce sont des riz qui sont presque... Ce n'est même pas consommable. Mais comme il n'y a pas de contrôle, alors c'est si on fait entrer ces produits dans le pays et les gens les consomment. Mais qu'est-ce qui nous empêche aussi de battre ces riz comme les autres pour qu'on puisse débattre notre riz avec des moissonneuses batteuses pour que nous puissions avoir un bon produit que nous allons consommer?
Bien, merci Madame Claudia. Merci. Merci pour toutes ces questions. Professeur Peter, à vous la parole.
Bien, merci. Merci à tous ces compatriotes qui sont intervenus avec des préoccupations tout à fait fondées. Je crois que j'évoquais certains facteurs qui ont fait que aujourd'hui l'agriculture continue à poser problème dans notre pays malgré ce que nous avons comme potentialité et diversité d'ailleurs de potentialité. Je veux vous dire que vous savez, il y a 5 ans, 6 ans, j'ai discuté avec un industriel ici qui est dans le secteur pharmaceutique, qui me dit qu'il préfère importer le médicament pour servir le marché de la machine. Il préfère importer le médicament de l'Inde plutôt que produire à Kinshasa et le vendre à Lubumbashi parce que ce serait très coûteux. Le coût de revient serait très élevé. Donc vous imaginez que le produit qui vient de l'Inde sont vendus à des prix plus abordables à Lubumbashi que ceux qui sont produits à Kinshasa et acheminés à Lubumbashi. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons un marché interne qui n'est pas intégré. Lorsque vous avez des provinces tout entières, des grandes provinces qui sont totalement enclavées, qui ne sont pas connectées par des routes, par des voies de communication, et donc rien ne peut marcher. Et c'est ce qui arrive, et c'est ce dont nos compatriotes qui ont comme principale activité, seule principale activité peut-être, l'agriculture, souffrent aujourd'hui. Ils ont ce potentiel, ils ont la main, donc ils ont la force productive, et ils produisent. Et le produit moisit sur place. Et comment
parce
est-ce
qu'il n'y a
peut, pas des routes faire davantage? C'est pourquoi je dis la réponse, le président de la République l'apporte déjà avec, à travers le programme 245 territoires, qui a prévu une composante importante pour l'entretien, la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Et donc, on n'en est pas là. Je vous ai dit tout à l'heure que...
Vous avez parlé de 9000 km de routes qui...
À peu près 9000 km de routes des dessertes agricoles qui doivent être réhabilitées et 35 000 à peu près qui doivent être entretenues. Donc ça c'est énorme. Donc c'est pourquoi le président de la République, comme notre compatriote a dit, le problème c'est l'État. Ben le problème c'est l'État principalement, mais la solution c'est l'État avec toutes les parties prenantes, notamment les paysans et même les autorités locales, ainsi de suite. Voilà pourquoi même pour le programme des 145 territoires, le président de la République ne s'est pas limité à l'annoncer chez lui, à son bureau. Le président a mobilisé, a fait venir ici les députés provinciaux, les autorités de tous bords, pour non seulement les informer de cela, mais les sensibiliser, afin qu'eux, à leur tour, puissent effectivement repérer et être des gardiens de gens qui veillent sur la mise en œuvre de ce programme, pour que ce soit réalisé avec la plus grande efficacité. Et donc ça, c'est pour dire qu'on voudrait effectivement tourner la page des programmes qui s'annoncent, mais qui ne se réalisent pas ou qui s'annoncent et en réalité vides de contenu. Nous avons connu des slogans, mais le président de la République dit que l'heure n'est plus au slogan. Il faut annoncer et matérialiser. Et donc, on a passé des années à ne pas s'occuper des routes, alors que c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas à avoir honte, comme notre frère l'a dit. Il a décrié avec raison que les gens sont allés, il y a des autorités qui sont allées à l'étranger pour chercher à acheter le maïs. Ben, moi, je m'en vais vous dire que moi, je fais aussi ce déplacement juste en Afrique du Sud. Mais c'était pas seulement et surtout pour m'enquérir de conditions sur le maïs. Mais c'était pour voir, et ils sont classés parmi le pays à très fort rendement, à très forte productivité. Donc, le principal pays producteur de maïs, et je crois que l'Afrique du Sud, c'est le premier pays producteur de maïs en Afrique.
En Afrique.
Alors, je préfère arriver à voir quelles sont les pratiques auxquelles ils recourent pour être à ce niveau de production. Et donc c'est toujours bien de voir comment la technologie qu'ils utilisent, les intrants qu'ils utilisent et quel est le niveau de rendement.
Ici chez nous, l'agriculture est encore rudimentaire. Mais les paysans utilisent des moyens.
Bien sûr, même là où on produit, mais on produit, le rendement est très faible par rapport au potentiel. Ici, nous avons en moyenne, je dirais, on avoisine en moyenne une tonne par hectare. Alors que moi, j'ai vu en Afrique du Sud, selon les variétés, parce qu'ils sont, il y en a qui utilisent des technologies, comme on dit, des plantes génétiquement modifiées. Donc, il y en a qui utilisent seulement des pesticides, des engrais, ainsi de suite. Mais vous avez deux niveaux de rendement très élevés. Ceux qui sont dans les techniques de plantes génétiquement modifiées, ils sont à 8 tonnes l'hectare.
8 tonnes l'hectare.
Et pour les autres cultures qui sont faites sur base de principes de... on respecte un peu les normes environnementales et autres. Mm-hmm. Donc, ça varie entre 4 et 6 tonnes l'hectare. Donc, vous voyez que le niveau de productivité est très élevé, de sorte que sur une petite superficie emblavée, vous pouvez produire davantage par rapport à celui qui peut faire 10 fois plus que celui qui n'utilise pas leur technologie. Donc, il était très important d'arriver sur place et voir pourquoi ça marche chez eux.
Hein, et c'est une agriculture mécanisée.
Voilà, et voir dans quelle mesure on peut également s'imprégner. Je vois ici, nous avons tout ce qu'il y a. Nous avons la main d'œuvre, nous avons des compétences, il y a des agronomes, des ingénieurs, tout ça. Mais la réponse, c'est essentiellement l'État qui doit l'apporter. Et c'est ce qui est en train de se faire en ce jour à travers toutes ces initiatives prises sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
Gista nous dit qu'à Kambov, les champs sont transformés en zone d'exploitation minière. On propose aux paysans 100 dollars et puis bon, vous vendez votre champ au profit des mines.
Ben bon, il y a là toute une question de survie. Vous voyez, et il est vrai que tout dépend des politiques locales qui sont développées. Là où on estime que sous le sous-sol il y a des minerais qu'il faut valoriser, qui peuvent être effectivement une source de ressources pour financer l'agriculture. Donc je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient à pouvoir les désaffecter pour l'utilisation, pour l'exploitation minière, et trouver des endroits beaucoup plus appropriés où nos compatriotes peuvent faire les activités agricoles aux meilleures conditions avec des accompagnements nécessaires, parce qu'il ne faut pas seulement prendre les terres et tirer seul les économies du sous-sol et abandonner les paysans et justement dire voilà la petite compensation de 100 dollars ça suffit. Je crois que ça doit être accompagné de petites des politiques locales pour voir comment les accompagner et les réaffecter là où ils peuvent produire aux meilleures conditions.
Roger s'interroge, qu'est-ce que Kanyamaka CC est devenu? Est-ce qu'on ne produit plus le maïs ou quoi?
Le service national est opérationnel. Ça fonctionne, ça produit. Et la question est la seule. Ils produisent, mais comment acheminer là où ça peut être consommé? C'est à des coûts excessivement prohibitifs. Lorsque nos compatriotes qui sont au Kasaï et qui sont dans le Haut-Katanga, tout ça, se plaignent ou souffrent de l'insécurité alimentaire, hausse vertigineuse
des prix
de maïs, et ainsi de suite. Bon, avec raison, mais ils ne savent pas que la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est de comment faire parvenir ce qui est produit à Kanyamaka CC et même dans d'autres zones à fort potentiel de production, comment faire parvenir ces productions-là de ce lieu de production vers les centres de consommation qui sont le Lubumbashi, Kolwezi et Kananga Mbujumayi. C'est ça la plus grande difficulté. Et donc, il faut, d'où nécessité d'une politique coordonnée, holistique, qui prend en considération non seulement la mise en œuvre efficace des travaux pour les routes de desserte agricole, mais il faut une connectivité avec les autres voies de transport, voies de communication, c'est les voies ferrées, c'est les routes nationales numéro 1, numéro 2, ainsi de suite, qui doivent effectivement être interconnectées entre elles pour permettre une évacuation facile et aux meilleures conditions de coût de produits qui sont réalisés, qui sont les réalisations des compatriotes qui sont dans le Congo profond.
Charles a fait des propositions. Il dit qu'il faut passer à la pratique. On peut avoir une agriculture diversifiée. Par exemple, on sait que dans le centre du pays, c'est le maïs. À l'est, ça peut être d'autres cultures. Et puis, obliger, par exemple, chaque député à avoir des hectares à cultiver. Et puis, ne pas vendre les produits aux sociétés brassicoles qui ont besoin de maïs et autres pour fabriquer la bière, mais que ce soit pour la consommation. Voilà. Donc, et puis, faire aussi l'agriculture urbaine. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces propositions?
Charles, vous êtes apaisé. Vous savez, l'agriculture urbaine, c'est ce que nous vendons. Mais les légumes que nous consommons chaque jour ici, ça fait partie de l'agriculture urbaine. Donc vous n'allez pas faire d'hectares et d'hectares. Déjà ici à Kinshasa, vous n'avez pas d'espace. Il faut aller vers Maluku ainsi de suite. Au-delà de Maluku, pour avoir des hectares, vous pouvez faire vos exploitations agricoles à grande échelle. Oui, l'idée d'amener, de contraindre le député ou les officiels à avoir des activités agricoles, je crois que cette expérience a été observée dans d'autres pays, ici en Afrique.
Et ça a donné des bons résultats.
Ça a donné des bons résultats, mais ce qui est très important, c'est, je crois que c'est toujours bien, mais il faut sensibiliser, il faut conscientiser, il faut sensibiliser. Il faut que tout le monde se mette dans cette dynamique-là. Mmh. Je crois que ça peut avoir des effets d'entraînement très, très, très positifs. Alors, moi, je crois que on ne va pas aller à contraindre forcément, parce qu'en fait, si vous voulez contraindre quelqu'un, s'il n'a pas la volonté, n'a pas la tête à ça, donc il ne vous donnera pas les résultats.
Oui.
La meilleure façon pour moi d'illustrer cela, c'est à travers les tracteurs qui ont été distribués il y a quelques années à certains politiques ici. Mais si vous circulez à travers nos territoires, ici, vous trouverez des tracteurs abandonnés, en bon état, mais abandonnés, inutilisés, tout simplement parce qu'on a donné à des gens qui n'avaient pas la tête à ça. Donc il faut savoir prendre des mesures qui puissent effectivement être suivies des faits et dont les acteurs peuvent être de meilleurs porteurs de la vision pour que ça puisse effectivement produire ce qu'on peut attendre de ça comme résultat.
Bien, on va accueillir Malonga de Bandundouville et Gloire du Congo central. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour Jody et bonjour à tous ceux qui nous suivent, à notre invité.
Nous parlons du développement d'une agriculture durable en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, pour être vraiment dans l'agriculture durable, Jody, vous l'avez déjà dit, il faut bien encadrer d'abord les agriculteurs. Puisqu'on n'est pas développé l'agriculture et laisser les agriculteurs à part. Et qui sont les agriculteurs? Ce sont les paysans qui vivent dans des villages, qui vivent au fond fin des pays. Mais aujourd'hui, on s'intéresse, aujourd'hui nous vivons Kanyamaka CC, ici chez nous, ici, il n'y a rien. Nous sommes toujours dans la carence. Mais si on développe et on accroît, ce que vous aviez dit, les routes des dessertes agricoles. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, la population elle-même va inonder tous les marchés des grands centres. Puisque ici, chez nous, à Bandundouville, nous sommes dans une province à vocation purement agricole. Si vous arrivez même dans des ports, puisque nous sommes ici les marines, le Kwilu, Kasai, Wamba, Wango, et tous les rivières, dans des ports, si vous arrivez là-bas, il y a vraiment des dépôts de maïs, d'arachides et d'autres et de courges aussi. Et nous sommes témoignés, nous sommes qualifiés ici à nos voisins, le Congo brazzavillois. Ils sont ici vraiment en gogo. Ils viennent ici acheter les arachides, les maïs. Ils nous considèrent vraiment, nous sommes les vrais agriculteurs. Mais nous manquons les moyens et l'accompagnement de l'État. Alors, si l'État veut accroître et faire agir l'agriculture en République démocratique du Congo, d'abord, ils doivent entretenir ce que vous aviez dit, les routes des dessertes agricoles. Si ces routes sont bien entretenues, vous verrez comment est-ce que même là à Kinshasa, vous allez manquer la place de déposer les maïs, les arachides et tout ce qu'on consomme là-bas. Et dans tous les villages, s'il vous plaît, et dans tous les grands centres d'agglomération, nous serons très très bien. Mais si nous attendons seulement, non, on va faire des projets, ceci, cela, des Bukangalondo, tout ça, on va toujours détourner, démonter, et les agriculteurs vont rester comme ça. Puisque les machines elles-mêmes ne travaillent pas, elles-mêmes, s'il vous plaît, ne travaillent pas, ce sont les agriculteurs. Mais on oublie les agriculteurs, on s'intéresse hors sujet. Voilà où nous sommes comme si nous
merci Malonga. Voilà, on doit s'occuper des agriculteurs et puis réhabiliter les routes des dessertes agricoles et les grands centres urbains seront inondés de produits. Professeur Peter,
ouais.
À vous la parole.
Bien, je comprends les préoccupations des compatriotes et que nous partageons d'ailleurs tous. Vous me demandez d'expliquer à nos compatriotes c'est quoi la vision du président de la République par rapport à ça. Je vous ai dit tout à l'heure, je le dis d'ailleurs à l'intention de ceux qui nous suivent, tous les auditeurs de Radio Capi, que si nous sommes allés, si les gens sont allés, les autorités sont allées en Afrique du Sud, c'est pas par le plaisir de montrer que on est indifférent vis-à-vis de ce qui se passe et de ce que nous devons faire pour mettre fin à cette situation. Il s'agit d'une situation purement conjoncturelle. C'est comme vous avez chez vous un enfant agonisant, il a faim, il est agonisant, on vous dit non, il faut le trouver rapidement à manger. Vous dites bon, non, comme j'ai des provisions, laissez-moi d'abord aller chercher des huiles, les braises, ainsi de suite, faire à manger, alors que chez le voisin, vous pouvez rapidement acheter un plat qui est disponible et sauver des vies. Donc c'est ça en fait, c'est ce qui arrive, mais en attendant qu'on trouve, lorsque vous trouvez une solution palliative, vous allez chez le voisin vous acheter, vous êtes en train en même temps de trouver des solutions durables, c'est-à-dire voir comment desserrer tout ce qu'il y a comme contrainte au niveau interne pour que le potentiel de production locale puisse être totalement libéré. Donc c'est une réponse à nos amis qui disent mais on a pourquoi on doit aller bien sûr, quand face à une urgence on ne sait pas faire autrement, parce que pour faire une route de dessert agricole, vous savez quels sont les préalables, il faut des études. Il faut évaluer, il faut analyser les conditions techniques, les conditions du sol, ainsi de suite. C'est des années. Et commencer à faire les travaux de manière proprement dite, c'est également des années.
Ça prend du
Mais
temps,
par
ouais.
rapport à une urgence de mois, donc il faut trouver des solutions d'urgence. Solutions d'urgence, c'est le seul recours, c'est les importations. Et ça, c'est à travers le monde, ce n'est pas seulement une réalité congolaise dont nous devons dire, voilà... Il y a de la honte à le dire, non, il faut admettre que nous avons des faiblesses, ce sont des faiblesses qui se sont accumulées depuis des décennies et des décennies, donc rien n'a été fait pour rendre notre marché interne totalement intégré. Il n'y a pas de route et donc maintenant, c'est pourquoi le président de la République investit beaucoup dans les infrastructures et on le sait, je dis au-delà des 145 territoires, il faut faire la lecture du budget qui est l'expression de la volonté politique du pouvoir politique en place. Vous verrez que le volet, tout ce qui est développement rural, agriculture, les infrastructures, ça prend énormément, ça prend une grosse part. Au-delà, bien sûr, de dépenses de sécurité, de dépenses militaires qui sont, en ce moment, doivent être considérées comme priorité.
Madame Claudia vous pose la question de savoir, elle dit par exemple, il y a les riz qui est produit à Bunke, à Luena, tout ça, qui est de bonne qualité, mais à cause de moissonneuses, batteuses, bon, c'est un riz mélangé, quand vous le prenez, vous sentez qu'il y a du sable, et les gens préfèrent alors prendre ce qui vient d'ailleurs. Pourquoi ne pas améliorer ce que nous avons pour produire le riz de qualité?
Oui, madame, pour s'apaiser, je veux dire à madame que le président de la République a donné instruction déjà pour voir comment valoriser tout ce que se produit. Donc, au-delà des obstacles que nous avons d'évacuation, mais il faut des solutions d'urgence. Vous savez, la fin, c'est presque chaque fin d'année, le gouvernement parfois recourt à des importateurs ici pour recevoir livraison des vivres, des denrées alimentaires à distribuer aux agents, ainsi de suite. Pour le président public, il faut mettre fin à cela. Et donc, mettre fin à cela, c'est commencer d'abord par identifier tous ces acteurs, tous ces bassins de production, et faire avec eux des programmes pour que, moyennant certaines mesures d'accompagnement, ils soient en mesure de fournir au gouvernement, si le gouvernement maintient en fait sa politique d'assistance ou de livraison de dons de denrées alimentaires aux agents fonctionnaires de l'État. Donc l'idée ici c'est que tout ce qui peut être produit, livré par les agriculteurs locaux, le soit d'ici la fin de l'année. Et donc, par rapport à ça, nous comprenons que pour ce qui est du riz, c'est vrai, les gens vous disent, c'est du riz de bonne qualité. Et ça, c'est indéniable, c'est du riz de bonne qualité. Mais c'est les conditions de traitement de ce riz pour l'amener au marché qui ne sont peut-être pas très très rassurantes, parce que il faut que ce soit de bonne qualité. En fait, il y a beaucoup de débris avec
du sable tout ça, ça décourage les consommateurs.
Non seulement ça décourage les consommateurs, mais c'est déjà un problème de santé. Alors, nous sommes en train, au niveau du gouvernement, on est en train de penser à doter le paysan, les agriculteurs, des petits outils pour cela. C'est pour ce qui est de, par exemple,
des outils de transformation.
Quand le moissonneuse, ainsi de suite. Vous regarderez dans le programme des 145 territoires, il est prévu. Ça peut être modique, mais c'est déjà mieux, vous commencez par ça d'ailleurs. Donc il est prévu de doter le paysan, les agriculteurs, d'à peu près 4,340 millions micro-usines de transformation. Et donc ça, c'est déjà, c'est effectivement pour voir comment nourrir et alimenter, approfondir les chaînes des valeurs dans le secteur agricole, de la production jusqu'à la transformation. Donc en amont, il importe qu'on puisse doter aussi ces paysans, qu'on doit organiser, qu'on doit structurer des outils pour leur permettre d'améliorer aussi les conditions, non seulement des cultures, mais également des récoltes et des consommations de leur production.
Et ils ont aussi besoin des intrants, parce que la plupart des intrants sont importés et ça coûte.
Bien sûr. C'est pourquoi je dis, bon, je crois que vous aurez organisé, il faudrait organiser une émission spéciale pour que je vous détaille point par point ce qui est prévu d'avoir dans le programme des 145 territoires. Vous avez 500 000 ménages ruraux, ou producteurs locaux, qui devront être encadrés. Il y a des instruments, des outils, des intrants qui devront être mis à disposition. Donc, ils devront être rendus disponibles, accessibles à ces producteurs. Il y a à peu près 43 000 hectares qui doivent être aménagés pour des cultures prometteuses, essentiellement celles qui constituent en fait les aliments de base pour notre pays, pour notre économie. Donc il y a plein de choses qui sont prévues. Nous devons seulement prendre le mal en patience, parce que le président de la République lui-même suit ça de près. C'est ce qui est la différence par rapport au régime passé. Tous les programmes qu'il a lancés, il se donne le temps de suivre ça de près. Ça fait, c'est pourquoi il le fait, c'est pour donner de manière permanente l'impulsion nécessaire afin que ces initiatives qui sont louables de par leur particularité, de par le résultat attendu, puissent se réaliser avec la plus grande efficacité.
Bien, on va accueillir Étienne Demahagui, le maker depuis Arou. Étienne, bonjour.
Bonjour, Daniel. Bonjour, l'invité.
Bonjour, monsieur.
Nous parlons du développement de l'agriculture durable en RDC. Quelle est votre question?
Merci beaucoup pour le thème. Ma première question se focalise sur le point suivant. Chez les viteurs dans ce pays, on a déjà beaucoup assisté à des théories qui ne changent rien. Alors, ma première question s'adresse à vous. On peut espérer après combien d'années, par exemple, consommer les produits qui sont produits localement, parce que depuis des années, on n'assiste rien qu'à des discours, à des promesses, mais sur le terrain, rien ne change. Et après, combien d'années on peut attendre de consommer les produits cultivés localement? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, concernant les relations qui se passent à Kanyamasese, je crois qu'on n'a jamais attendu les autorités fournir un bilan qu'on a produit autant de tonnes, par exemple, de maïs, rien que les finances de là. Et pour chuter à la troisième position, je crois que pour que ce secteur soit amélioré, ça demande la contribution de tout le monde. Et nous avons beaucoup de jeunes futurs cadres formés en matière de l'agronomie. Ils doivent aussi contribuer pour développer ce secteur. Et beaucoup ont fait même l'université, mais ils ne démontrent rien. Ils rentrent et leur talent, c'était comme ça. Alors, tout le monde doit contribuer pour la réussite de ce secteur. Merci. En plus, pour citer, monsieur le vice, est-ce qu'il n'y a pas moyen que le gouvernement puisse mettre un budget spécial à ce secteur? Parce que ça ne va pas. Merci beaucoup et bonne continuation.
Bien, merci Étienne depuis Maragui d'avoir appelé pour participer à cette émission. Nous parlons du développement de l'agriculture. Melchior, vous êtes à Arou. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Melchior?
Ok, merci pour la thématique d'aujourd'hui. Mais si je dis vraiment, si nous voyons l'agriculture actuellement est vraiment la base de toutes choses. Moi, j'ai vécu ça dans mon territoire ici à Haru, qui est vraiment à frontalier avec la République de l'Ouganda. Chez nous, c'est vraiment, actuellement, l'agriculture est devenue un moyen de ressources. Alors, je ne sais pas comment l'État vraiment est en train de négliger les paysans, vraiment les agriculteurs, pour que dans tous les points, vous pouvez cultiver dans un lieu-là vraiment qui peut produire mieux, mais il n'y a pas une route pour amener.
Oui, les routes des dessertes agricoles.
Oui.
D'accord, merci.
Je voulais demander à l'invité de pourquoi. Qu'est-ce que l'État promet vraiment dans les avenir pour nos paysans? Deuxième question, il y a concernant la vente des produits agricoles que nous à Haru, et pour les Ugandais, payent ça plus pour leurs industries et leurs consommations. Alors, les prix qui sont en train de poser à nos paysans, vraiment, ça n'intéresse pas. Quel est vraiment le poids? La position que l'État peut prendre pour vraiment vendre ses produits.
Bien, merci. Là-bas, à Rousse, sans plus, le marché est inondé par des produits ougandais. Comment est-ce que on peut favoriser la production locale? Etienne Demaragui dit, après combien de temps on peut espérer consommer les produits locaux? Et puis, ben, voilà, le Bukangalozo, on n'a pas les rapports là-dessus sur la production, on sait rien, etc. Professeur Kassongo.
Ouais.
Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je réagis d'abord à la préoccupation de notre compatriote qui a posé la question de savoir, et c'est pas forcément une question, il dit Kanemaka, c'est ça avec le service national, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Oui, ils ne sont pas informés. Je parlais de Bukangalozo.
Voilà. Bien, je crois que Kanemaka, c'est ils sont très opérationnels, ils produisent et ils produisent beaucoup. Peut-être que notre ami n'a pas eu l'occasion de voir les illustrations qui sont passées à travers le média sur les réalisations de Kanemaka CC avec tous nos compatriotes qui sont amenés là-bas à cette fin pour purger leur peine et en même temps pour leur éducation et leur permettre de s'insérer
dans la société. Oui.
Voilà. Et donc Kanemaka se produit, je crois que votre question, ils auront certainement les échos, ils devront faire un effort pour rendre public les statistiques de production et évidemment aussi communiquer avec vous sur les contraintes auxquelles ils font face pour pouvoir rendre leur production plus accessible dans les milieux où ça peut être utilement consommé.
Professeur Pitera, est-ce qu'il y a des projets, on pense relancer par exemple Bukangalozo?
Vous avez suivi, Bukangalozo a fait son histoire, Bukangalozo existe, c'est des espaces énormes, c'est des gros investissements qui ont été consentis par rapport à ça. On ne va pas abandonner ça comme ça, nous sommes sur la piste. Il y a une mission encore pour faire les inventaires de ce qu'il y a. C'est vrai qu'il y a quelques petites activités qui se déroulent, mais il faudrait que les investissements, la production puisse être redynamisée pour que ça puisse effectivement répondre aux attentes compte tenu du volume d'investissement qui a été consenti à cet effet. Donc, Bukangalozo, ça fait partie des régions, des sphères ou de milieux où une attention particulière est apportée aujourd'hui. On doit faire des inventaires pour savoir les équipements qui ont été acquis, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, et de ce qui a été prévu en termes de production, des différentes spéculations qui étaient envisagées, qui étaient ciblées. Qu'est-ce qui doit être fait? Et donc, nous sommes à ce niveau-là. Peut-être que le mois venu, je pourrais vous appeler pour vous dire, parce que les compatriotes ont besoin de l'information, doivent savoir ce qui se passe, ce qu'on en fait, et où est-ce qu'on en sera. Donc, je viendrai pour échanger avec vous sur cette question-là, pour qu'on le sache.
Bien. Alors, Melchior, depuis Haru, il dit que le marché là-bas est envahi par les produits ougandais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour favoriser la production locale?
Oui, je crois que il a raison. Vous savez, nous devons avoir une politique agricole et une politique commerciale cohérente. On ne peut pas aujourd'hui interdire ou restreindre les importations lorsque la production locale ne répond pas. On ne sait pas rencontrer les exigences en quantité et en qualité de la demande. Parce qu'en fait, ce qui importe, c'est d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des denrées alimentaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord nous doter de grandes capacités de production. pour que, on le sait très bien, ce sont nos voisins, et donc avec les voisins, nous sommes obligés de promouvoir le commerce transfrontalier. Alors, à ce titre, interdire l'importation des produits venant des voisins, donc ça peut appeler à des mesures de représailles dont nous-mêmes nous pouvons souffrir, des contre-chocs. Alors, c'est pourquoi il est très important, c'est de notre responsabilité, d'examiner, de voir à quelle hauteur cela impacte négativement la production locale et voir quelle riposte convient le mieux pour pouvoir doter les producteurs locaux des grandes capacités ou les accompagner pour qu'ils puissent améliorer le niveau de rendement, être beaucoup plus productif et donc ainsi être plus compétitif que le voisin qui importe. Donc c'est ça la réponse, parce qu'il faut éviter des mesures d'interdiction qui peuvent affecter négativement le marché en occasionnant des pénuries, que les producteurs locaux ne seront pas immédiatement comblés. Et donc, c'est important, toutes les mesures nécessitent toujours d'être atténuées, d'être examinées à froid et chaud et voir le risque lié. Donc, la réponse pour moi, c'est que les autorités locales, bien sûr, à notre niveau également, nous allons essayer de suivre de près pour voir quelles sont les dispositions particulières qu'il faut prendre pour doter nos producteurs davantage de capacités afin d'être à la hauteur des exigences de la concurrence aujourd'hui.
Bien, quelqu'un a posé la question, dans combien de temps on peut espérer consommer des produits locaux, consommer congolais?
Consommer congolais, pour le président de la République, c'est une extrême urgence. Vous savez, le chef de l'État, on l'a dit, la revanche du sol sur le sol,
sur le sous-sol,
voudrait dire qu'il veut faire reposer la croissance économique sur l'agriculture.
Bien.
Donc il faut la diversifier.
Oui.
Et ce n'est pas seulement la diversification qui compte, il faut effectivement en promouvoir les exportations. Donc il faut atteindre certains niveaux de production et
professeur
garantir
Peter,
une certaine qualité de cette production afin qu'on puisse effectivement tirer pleinement profit des opportunités que nous offre le marché régional et pourquoi pas le marché mondial.
Professeur Peter, on n'a plus beaucoup de temps. On est à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes le conseiller principal du chef de l'État en matière d'agriculture, pêche et élevage. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Eh bien, moi, je vous remercie également. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait beaucoup de temps avec vous.
Vous reviendrez. Vous allez encore revenir la fois prochaine. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.